Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, notre texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. C'est là que se situe un épisode parmi les plus importants de la vie du Christ, celui que l'on appelle communément la tentation au désert. Avant de commencer son ministère public, Jésus se retire dans une région aride de la Palestine pour méditer dans la solitude. Une grande mission l'attend. Il doit faire provision de forces spirituelles. L'endroit est propice pour entrer en communion avec Dieu et prolonger cette communion. Il y restera 40 jours, pendant lesquels il ne prendra aucune nourriture. C'est là que, pour la première fois dans le récit biblique, il rencontrera le tentateur. Ce dernier ne l'a pas quitté pendant toute cette période. Il va maintenant donner 3 ultimes assauts. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa. Que nous enseigne ce texte ? Tout d'abord, que le tentateur existe. Oh, je sais bien qu'une certaine mentalité moderne, orgueilleuse de savoir, répugne à parler du démon avec sérieux. Pour beaucoup, il n'est qu'un personnage de légende. Il fait partie d'une mythologie dans laquelle on relègue d'ailleurs avec autant d'assurance et de désinvolture le bon Dieu, le Christ, les anges et compagnie. C'est là le propre d'une certaine forme d'athéisme. Ce qui est plus grave, c'est de croire au Christ et de ne pas croire en l'existence du démon. Car cela prouve que l'on a pris dans le récit évangélique ce qui nous convenait et que l'on a rejeté le reste comme indigne de foi, comme négligeable ou simplement comme incompatible avec la mentalité moderne. C'est un tel traitement du texte biblique qui est cause pour une grande part de la division dans les rangs des chrétiens. Pour en revenir à notre texte, il faut reconnaître que la personne de Satan est aussi attestée que celle du Christ. Tout le problème du mal, de la corruption, de la chute est lié à la personne même du diable. Il est impossible de le rejeter du cadre de la foi chrétienne sans faire violence aux données de cette foi et sans rompre son équilibre. Voyons sous quel nom ce personnage nous est présenté. Le texte que nous venons de lire nous en donne déjà 3. Il est d'abord appelé le tentateur. C'est un terme suffisamment éloquent par lui-même. C'est aussi le diable. C'est là un mot grec que traduit assez exactement le vieux mot français « traversier », c'est-à-dire « dirigé de travers ». Le diable est celui qui fausse toute chose, qui tord la vérité. C'est aussi celui qui sépare, qui disperse, désunit, égare. Jésus l'appelle aussi « Satan ». Ce mot hébreu signifie « l'adversaire ». Plus précisément, celui qui conteste, qui accuse, qui calomnie. Il est encore appelé le menteur et meurtrier. Il est le corrupteur des hommes, acharné à vouloir leur perte en les sollicitant au péché. Pour y parvenir, il utilise diverses stratégies, dont la principale est sans doute de faire croire qu'il n'existe pas. Ce n'est certes pas pour rien qu'on l'appelle aussi le malin. Ceci nous introduit à l'idée de tentation. Le mot tentation a une double signification dans la Bible. Il peut signifier une épreuve, un test, une expérience visant à éprouver la solidité de la foi, par exemple, comme on éprouve la solidité d'un pont en l'astreignant à supporter un poids inhabituel. Dans ce cas, la tentation est une occasion de s'améliorer. Elle s'avère parfois nécessaire pour la raison qu'il n'y a pas de croissance sans effort, pas de progrès sans discipline. Puis il y a la tentation proprement dite, dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire l'incitation, l'invitation au péché. C'est ainsi que le Christ fut tenté. Et c'est surtout cet aspect de la tentation que nous connaissons le mieux, mais que paradoxalement, nous négligeons le plus. Nous l'avons dit plus haut, on ne prend plus au sérieux ni le Christ, ni le démon, ni la tentation. Par conséquent, on ne cherche pas à se garder contre des attaques que l'on juge imaginaires. Avec cette attitude, les hommes se trouvent dans la position insensée d'une armée en campagne qui non seulement sous-estimerait la force de l'ennemi, mais feindrait de ne pas s'apercevoir de sa présence. On ne placera donc pas de sentinelles et les soldats ne porteront pas d'armes. Or, la Bible nous parle de la tentation en termes clairs. Si nous acceptons ce qu'elle nous dit concernant Dieu et son Christ, il faut l'écouter jusqu'au bout. Dans la Bible, c'est-à-dire dans la bouche du Christ et de ses apôtres, le mal n'est pas seulement personnifié, comme certains poètes personnifient le vent, la terre ou les arbres. Le mal est une personne, une personnalité qui corrompt, détruit, égare, trompe et divise pour régner. Qu'importe si au lieu de dire « tentation », on dit « désir, envie, instinct ou réaction ». Qu'importe si au lieu de parler de péché, on parle de faiblesse, de défaut ou d'erreur. Ce qu'il faut savoir, ce que tout chrétien digne de ce nom et désireux de le conserver doit savoir, c'est que la tentation est une manœuvre intelligente, insidieusement calculée et dosée par une volonté précise dans le but de favoriser l'avilissement et la dégradation morale de l'homme qui l'a subi. Chaque jour de notre vie, et plusieurs fois par jour, nous nous trouvons tous devant un choix à faire. C'est la croisée des chemins où se manifeste surtout la tentation. Il s'agit de parler ou de se taire, de frapper ou de se retenir, de résister ou de céder, d'intervenir ou de rester indifférent, de participer ou de s'abstenir, d'aller ou de rester, de reconnaître une faute ou de la justifier. Notre bonheur ou notre malheur dépend du choix que nous ferons ou que nous faisons. Et le choix lui-même est déterminé par notre degré d'orgueil, d'égoïsme, par la nature des principes qui gouvernent notre vie et par notre lucidité ou vigilance spirituelle. Examinons brièvement la nature de la tentation du Christ et nous découvrirons qu'elle est en fait aussi notre tentation, surtout la première. Le malin profite de ce que le Fils de l'homme est affaibli par une longue période de jeûne pour l'inciter à transformer des pierres en pain. En cela, nous voyons qu'il profite toujours des circonstances les plus favorables. Il attend l'occasion propice. Il cherche le défaut de la cuirasse, le point le plus vulnérable, le plus susceptible de céder à un moment donné. Apparemment, il n'y a là rien de répréhensible. Jésus a faim. Ne pourrait-il pas user de ses pouvoirs pour se rassasier? Après tout, il l'a bien mérité. Mais au fond des choses, Satan veut que le Christ renie son rôle de serviteur de Dieu en utilisant ses dons miraculeux pour son propre compte. Or, le Fils de Dieu n'était pas venu pour être servi, ni pour se servir lui-même, mais pour servir. C'est pourquoi il connut la faim, les larmes, l'isolement, l'incompréhension, la souffrance, embrassant tout cela avec soumission et d'un amour d'autant plus grand qu'il aurait pu éviter tout cela. Mais il était à la disposition de Dieu pour servir les hommes. C'est pourquoi il répond « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ne sommes-nous pas tentés essentiellement de cette même manière? N'avons-nous pas tendance à ne vivre que pour ce qui est matériel, donc périssable? N'avons-nous pas l'habitude d'évaluer la vie en termes de possessions matérielles, de comptes en banque et d'assurances de toutes sortes? Il est vrai que la nourriture, le vêtement, la famille et le gîte sont des préoccupations légitimes pour l'homme. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », dit la prière. Mais l'homme perd toute mesure lorsqu'il confond tout cela et cela seulement avec la vie. Dans cette perspective, la différence fondamentale entre l'homme et la bête est considérablement réduite. Plus tard, Jésus dira encore « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance ». À ses yeux, la vie ne mérite ce nom que dans la mesure où elle se nourrit aussi de Dieu, par sa parole. Ce en quoi elle se situe à un niveau supérieur. Qu'est-ce que cela veut dire au juste, se nourrir de sa parole? Chaque fois que Dieu parle, comme il le fait dans la Bible, c'est pour communiquer à l'homme une vérité qu'il ne connaissait pas et qu'il lui était important de connaître. Deuxièmement, chaque vérité engendre une responsabilité, un devoir qui fait que l'homme doit sortir de son apathie, de son égarement et faire un effort dans une direction précise, et donner ainsi à sa vie une meilleure orientation. une plus grande stabilité et une explication vraiment satisfaisante. C'est de cette manière que l'homme se nourrit de la parole de Dieu. C'est précisément ce que Jésus a voulu dire, à savoir que la société, aussi bien que l'individu, ne vive vraiment que pour autant qu'ils dépendent de Dieu. L'homme a besoin de pain, c'est vrai, mais pas de pain seulement. Pour en revenir à la tentation proprement dite, il est vrai que Satan ne peut pas nous inciter à abuser de nos dons miraculeux, puisque nous n'en avons pas. Mais nous avons tous le temps, ce don de Dieu. Nous avons des possibilités diverses, des facultés, des moyens, des talents. Satan nous dit, prends tout cela, ton temps, ton argent, tes dons, et mets-les à ton service. Profites-en au maximum, car tu ne vis qu'une fois. En cela, il exploite l'égoïsme de l'homme, jamais complètement déraciné, et l'incite à ne voir pas plus loin que le bout de sa vie. Dans la deuxième et la troisième tentation, Satan ira de plus en plus loin, dévoilant de plus en plus son objectif réel, à savoir se faire reconnaître comme Seigneur et Maître. Mais chaque fois, le Christ fera appel aux Écritures, et sa citation sera sans appel. Il est écrit. Finalement, il donne à l'adversaire l'ordre de se retirer, après avoir rappelé que Dieu seul est en droit de recevoir un culte. Les trois tentations ont un point commun, en ce qu'elles voulaient détourner le Fils de Dieu de sa véritable mission parmi les hommes. Et sa stratégie, à l'égard de l'homme, n'a pas d'autre but. Il va tout mettre en œuvre pour détourner l'homme de son Créateur. Cela, il l'a montré dès le commencement. Il l'amène à douter de son existence, puis à le renier passivement en se libérant de toute contrainte morale, ce qui a pour conséquence de le jeter dans les filets de sa propre loi. Il renie le service de Dieu pour choisir la servitude, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. De mille manières, il incite les hommes au mal, il divise pour mieux régner, il tisse entre eux des réseaux d'envie, de jalousie, de haine, de tromperie, de méchanceté, qui ne laisseront bientôt dans leur cœur qu'amertume, colère, volonté de vengeance, esprit de revendication. Il les pousse à des actes d'injustice, de cruauté. Il inspire leur turpitude, il les plonge dans la corruption, va jusqu'à leur faire perdre le souvenir de leur propre dignité et de la destinée à laquelle Dieu les appelait en les créant. À ce point, on peut se demander si l'homme a une chance de s'en sortir. Que peut-il contre ce déchaînement de forces invisibles mais présentes, silencieuse mais terriblement efficace? La réponse est claire. Seul, nous ne pouvons rien. Jésus précise, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est venu dans le monde pour rencontrer l'adversaire. C'est l'histoire de cette première confrontation que nous venons de méditer. Lorsqu'il sort victorieux de la mort, il remporte sur l'ennemi une victoire suprême. Mais avant que la postérité de la femme ne lui écrase définitivement la tête, il redoublera de zèle en multipliant ses assauts. Nous avons cependant cette promesse qui doit nous rassénérer. Elle nous vient de l'apôtre Paul qui nous livre la pensée de Dieu. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Il n'est pas toujours possible d'empêcher la tentation, mais il est possible de lui résister. Les Chinois ont à cet égard un proverbe très pittoresque. Ils disent « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Il est écrit que le Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Nous venons de voir que les Écritures constituaient sa meilleure défense. Elles peuvent aussi être la nôtre. Les paroles de Dieu sont comme un parapet pour nous empêcher de tomber dans les précipices du mal. Mais les hommes, dans leur aveuglement, méprisent le danger. Ils trouvent ces garde-fous superflus et veulent les enlever sous prétexte qu'ils gênent la vue et enlaidissent le paysage. Soumettez-vous à Dieu, écrit l'apôtre Jacques. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La sagesse nous dicte en effet de reconnaître notre vulnérabilité essentielle et de chercher un refuge sûr. Le docteur Blanton, psychologue et psychiatre, a dit « La lutte n'est jamais finie. Mais si vous êtes capable de démasquer la tentation, de dresser la liste de vos points faibles, d'éviter les fausses excuses autant que l'imprévoyance, alors vous êtes dans la bonne voie. et si vous savez rester fidèle à vos principes, même si vous ne parvenez pas toujours à les mettre en pratique, vous perdrez peut-être encore quelques batailles, mais vous avez bien des chances de gagner la guerre.